Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Eh bien, je vais donc avoir le privilège de commencer en essayant de comprendre la crise de confiance qu'on vit actuellement. D'où vient-elle? Donc, je vais me livrer à un exercice de généalogie. Donc, je vais faire un peu d'histoire, évidemment. Chez Sociovision, on a l'avantage d'avoir des bases de données historiques. Donc, on essaye toujours de remettre les choses dans leur perspective. Alors, déjà, la crise de confiance est générale. Juste pour vous la rappeler, mais on la vit tous les jours, il y a une crise de confiance politique, comme vous le voyez à l'écran. Les gens n'ont plus confiance dans leur politique. Le taux d'abstention de dimanche est annoncé très haut. Il y a une défiance par rapport aux corps intermédiaires. Aujourd'hui, les syndicats n'ont jamais été aussi faible dans notre pays et ça ne cesse de monter. Donc vous voyez, l'avantage de voir des courbes, c'est de voir qu'elles ne cessent d'augmenter dans la défiance. Il y a une crise de confiance envers les marques. Alors là, c'est terrible, puisque là, vous avez 20 ans de données. Déjà, dans les années 90, il y avait cette défiance. Seulement 48% des gens qu'on interrogeait faisaient confiance aux grandes marques concernant la composition des produits. Regardez le chiffre aujourd'hui, 29%, et ça s'est accéléré dans la dernière période. Et puis, il y a une crise de confiance par rapport au contenu de notre assiette. Qu'est-ce qu'on mange? On a parlé de Yuka, Thierry Cotillard vient de parler de Yuka. Ça s'inscrit aussi dans une dynamique. Donc, et je pourrais comme ça multiplier les indicateurs. C'est juste pour dire une chose très importante. On est dans une société où les niveaux de défiance n'ont jamais été aussi importants. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est essayer d'expliquer pourquoi. Alors vous allez voir qu'il y a deux choses fondamentales à prendre en compte. Il y a d'abord les évolutions de la société dans le monde, parce que ce qui se passe en France se passe ailleurs. Et puis, il y a des spécificités françaises qui rendent la situation d'autant plus difficile dans notre pays. Alors, je vais d'abord commencer par... Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière, il faut revenir en gros aux années 50. Pendant les années 50, en gros, au début des années 2000, les gens ont confiance dans l'avenir. Les gens ont confiance dans l'avenir, pourquoi? Parce qu'il y a des utopies qui fonctionnent comme des repères. Et l'utopie par excellence dans les années 50, 60, 70, 80, c'est l'utopie de la société de consommation. À ce moment-là, la société de consommation, elle incarne une forme de bonheur. Il y a de la croissance économique dans notre pays, 5% en moyenne. Il y a du progrès, progrès scientifique, progrès social, progrès technologique. Et puis on a le sentiment que ça va continuer. Il y a de l'optimisme. Chaque Français pense que l'année suivante, ça ira mieux. Dans 10 ans, ça ira mieux. Pour ses enfants, ça ira encore mieux. Toutes les générations, on est dans ce climat utopique. Donc évidemment, on a confiance. On a confiance dans les marques, on a confiance dans les autorités, on a confiance dans beaucoup de choses. Alors ensuite, comme vous le savez, à partir des années 70, 80, il y a les chocs pétroliers, etc. Mais il y a une nouvelle utopie qui va prendre le relais, c'est l'utopie du village global. Rappelez-vous, 1989, c'est la chute du mur de Berlin. 1994, c'est la fin de l'apartheid. Un grand vent de démocratisation s'ouvre dans le monde et on a le sentiment que c'est un mouvement irréversible. Donc ça donne une énorme confiance. On se dit, voilà, la démocratie va finir par l'emporter. Il y a la mondialisation qui n'est pas nouvelle, mais qui continue et qui est de plus en plus forte. Et la mondialisation, à ce moment-là, il y a un livre d'Alain Minc en 1997 qui s'appelle « La mondialisation heureuse ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, évidemment, on voit bien les menaces que fait peser la mondialisation, mais on voit surtout les bénéfices. Et c'est plutôt optimiste. Et puis, le monde s'accélère. L'accélération qu'on vit aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Mais à ce moment-là, l'accélération, elle est vécue sur un mode globalement positif. Pourquoi? Parce que ça s'accélère, mais on va vers le 21e siècle. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'Internet commence, lentement mais sûrement, à se développer et fonctionne comme une utopie. On se dit que dans plusieurs années, eh bien, cette notion de village global, elle va devenir réalité. C'est un concept inventé en 1967 par Marshall McLuhan. On se dit, dans quelques années, grâce à Internet, les gens vont se parler plus davantage, les cultures vont converger, et on va tous faire partie du même village. Grande confiance dans l'avenir. Et puis, badaboum, tout ça s'écroule. Maintenant, on le sait. La date fondamentale, c'est 2001. 2001, pourquoi? Il y a deux événements en 2001 qui sont importants. Il y a d'abord l'éclatement de la bulle Internet. L'éclatement de la bulle Internet, ça veut simplement dire que l'Internet rentre dans l'économie normale. C'est le principe de réalité. Et donc, la dimension utopique va peu à peu s'estomper. Le deuxième événement, vous le connaissez par cœur, c'est le 11 septembre 2001, dont on voit maintenant qu'il a ouvert une nouvelle ère. Pourquoi? Parce que les pilotes étaient des étudiants qui avaient été formés par l'Occident, mais qui retournaient leur savoir contre l'Occident. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui devient de plus en plus une source d'incertitude. On voit le terrorisme monter et on voit que ce mouvement vers la démocratie qu'on pensait irréversible, il n'est pas du tout irréversible. Aujourd'hui, on parle de démocrature pour parler de la Turquie, pour parler de la Russie, pour parler d'un tas de pays, la démocratie, dictature en même temps. À ce moment-là, et les années qui viennent, qui suivent vont confirmer ça, la convergence des cultures dans le monde, ça va être de plus en plus difficile d'y croire. La mondialisation heureuse, là aussi, ça va devenir de plus en plus difficile d'y croire. Et une partie du monde, peut-être, ne sera jamais démocratique. En tout cas, toutes les certitudes qu'on avait dans les années 90 se sont effondrées. La confiance dans l'avenir est de plus en plus mise en cause. Alors, en 2004, vous avez Facebook. Facebook et les réseaux sociaux qui vont se développer, qui vont se démultiplier. Maintenant, on le voit bien. Il y a eu deux conséquences qu'on commence à voir avec les réseaux sociaux. D'un côté, la multiplication des relations. On a des dizaines, des centaines d'amis. Sauf que nous, on le voit bien dans les enquêtes. Plus on a d'amis, plus on se sent seul. C'est le paradoxe de la société d'aujourd'hui. Plus les relations sont superficielles. Et puis la deuxième chose, on la voit aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux favorisent l'expression de l'émotion et favorisent les discours sans filtre. Maintenant, on le voit bien, on a eu Trump il y a quelques années, on le voit dans la France actuelle, tous les samedis et d'une manière générale. Les réseaux sociaux ont ouvert la voie à l'expression de la critique. Qu'est-ce que ça a comme effet ? Les gens peuvent exprimer directement leur défiance. Et cette défiance, même si elle est portée que par quelques individus, par l'effet des réseaux sociaux, elle pollue le climat social et elle ajoute à cette perte de confiance dans l'avenir. Alors cette perte de confiance en l'avenir, on continue, 2008, la crise financière. Là aussi, badaboum, dans Hamlet, à un moment donné, il dit il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Eh bien, à ce moment-là, on comprend qu'il y a quelque chose de pourri dans l'économie. Et c'est la partie financière de cette économie, une partie financière de cette économie. Mais qu'est-ce que ça a comme effet ? De susciter la défiance, là encore, de renforcer cette défiance et de mettre encore un coup d'arrêt à cette espèce d'optimisme du XXe siècle. Alors ensuite, il y a évidemment les applis, les plateformes qui changent la donne à partir de la fin 2009, 2010, 2011, l'Internet mobile. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça bouleverse complètement l'économie traditionnelle. Alors ça bouleverse tout le monde, en fait, En politique, on parle de dégagisme. Pour moi, enfin, on peut considérer que Trump est une sorte de produit de cette nouvelle culture où il n'y a plus de filtre, où c'est complètement immédiat. Mais le populisme, partout en Europe, se développe à ce moment-là. Et puis, si on prend l'économie, l'économie est complètement sens dessus-dessous. Pensez à ces quatre acteurs qui sont à l'écran. Uber, c'est la plus grande compagnie de taxi dans le monde, mais il ne possède aucun véhicule. Facebook, c'est le plus grand pourvoyeur de médias dans le monde. Il ne produit aucun contenu en propre. Alibaba, c'est la plus grande plateforme de marché au monde. Il ne possède aucun entrepôt. Et Airbnb, c'est le plus grand hôtel du monde. Mais il ne possède aucune chambre en propre. Évidemment, ça défie l'entendement pour quelqu'un qui a grandi dans le monde d'avant, comme on dit aujourd'hui. Ça en dit long sur l'incertitude générale qui commence à s'installer. Et évidemment, comment voulez-vous avoir confiance dans ce monde où à chaque pas que vous faites, les choses se sont mises à trembler ? Et c'est ce qu'on mesure, et c'est ce qui crée cette crise de défiance, l'écroulement général des certitudes dans le monde. Alors, les principales, vous les connaissez. Dans quel climat allons-nous vivre dans quelques années ? Déjà maintenant, on se pose la question. On ne sait plus trop comment on va vivre à long terme. Est-ce qu'on peut vivre à long terme ? Cette utopie de la société de consommation est totalement remise en cause. On a de plus en plus de données dans nos poches, mais est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal ? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous espionner à tout point de vue ? L'ère du soupçon alimentaire, Thierry Cotillard en a parlé, mais vous avez vu, on n'a jamais eu autant d'informations, d'autant d'outils. Mais qu'est-ce qu'on mange ? On ne sait pas. On ne sait plus exactement. L'augmentation des inégalités, ceux qui vivent par exemple à Paris, dans la région parisienne, le nombre de 100 domiciles fixes a augmenté considérablement au cours des 10 dernières années. Ça remet là encore beaucoup d'incertitudes sur le futur. Et puis les fameuses maladies de civilisation, c'est-à-dire les maladies qui ont été produites par notre modèle de civilisation, l'obésité, les diabètes, les allergies qui se sont multipliées. Comment ça jette un doute, là encore, sur notre mode de vie, notre mode de consommation. Et puis enfin, il y a ce qu'on vit maintenant, mais il y a ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. Quand on se projette à 10 ans, quel sera le rôle des intelligences artificielles ? Et quel sera mon rôle à moi ? Quel sera le rôle de chacun dans la société ? Quel sera l'équilibre entre les deux ? Est-ce que les intelligences artificielles ne finiront pas par remplacer les hommes ? Voilà. C'est ça l'origine de la crise de confiance qui n'est pas seulement française, mais qui touche tout le monde. Les gens ne savent plus tellement, n'arrivent plus à se projeter, sont méfiants, sont devenus méfiants sur tous les domaines de la vie et auront de plus en plus de mal à se projeter. Alors évidemment, tout ça, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Parce que j'aime bien ce que Thierry Cotillard a dit, c'est à la fois effrayant, mais c'est excitant parce qu'il faut apporter des réponses. Alors le problème en France est le suivant, c'est qu'en France, non seulement on est évidemment exposé à toutes ces évolutions, mais en plus en France, il y a un problème, on est naturellement défiant. C'est-à-dire que ça fait partie de notre culture. Regardez ces chiffres, beaucoup d'enquêtes internationales le confirment. Les Français sont un des peuples les plus méfiants du monde, notamment du monde développé. Regardez l'écart entre un Américain et un Français dans « je peux faire confiance à tout le monde ». Bah, le Français dira « non, évidemment non ». Mais l'Américain plutôt dit « oui, j'essaye ». Vous avez tous fréquenté des Américains, vous êtes toujours surpris par leur optimisme inébranlable, leur confiance, etc. Bah, vous le voyez dans le chiffre là. C'est important d'avoir ça en tête. Ça veut dire qu'en France, en plus, structurellement, les gens sont défiants. Donc non seulement ils reçoivent toutes ces évolutions, mais en plus ils les reçoivent avec un fil qui est déjà a priori négatif. Alors, pour finir cette introduction, je voudrais essayer de partager avec vous le pourquoi. Pourquoi nous sommes tellement méfiants dans ce pays ? Parce que c'est important de le comprendre pour essayer d'inverser la tendance. Alors, les gilets jaunes, c'est évidemment le dernier avatar de cette culture de la défiance. Au fond, les gilets jaunes, c'est l'expression française par excellence de la défiance. Mais dans le monde que je vous ai décrit, un monde où les repères se sont sensiblement évanouis. Alors, il y a cinq raisons, il y en a probablement plus, hein, mais il y a cinq raisons que j'ai voulu retenir pour essayer de comprendre la défiance des Français. La première raison, c'est un monsieur qui s'appelle René Descartes et qui influence. Alors, la plupart des Français n'ont pas vraiment lu le discours de la méthode, mais quand vous lisez le discours de la méthode 1637, il y a 350 ans, eh bien, vous apercevez qu'il met le doute au cœur de la méthode, le doute méthodique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soyez méfiants, toujours. Doutez de tout. Comme ça, vous serez libre. Eh bien, douter de tout, c'est ce que font beaucoup de Français tous les jours, même s'ils n'ont pas lu Descartes. André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann, avait écrit un livre en 1987, « Descartes, c'est la France ». Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est important. Certains livres ont une influence majeure dans la culture d'un pays. On peut faire l'exercice dans plein de pays. Et évidemment, la philosophie des Lumières, c'est le produit du cartésianisme, c'est la critique de la religion, et c'est « émancipez-vous par la critique ». Donc la critique en France, c'est très valorisé. Notre tradition valorise la critique, et donc valorise une forme de défiance, a priori. La deuxième chose, c'est notre histoire. La deuxième raison qui explique la défiance, c'est notre histoire. Évidemment, la Révolution française, qui a été un événement radical, un événement très important. Alors, il y a à la fois le côté radical, une des révolutions les plus radicales, donc d'où le côté radical de la méfiance française, mais il y a eu aussi le traumatisme de la terreur, hein, où à un moment donné, on ne savait plus du tout à qui faire confiance. Hein. On guillotinait les uns, on guillotinait les autres, etc. Donc, c'est un moment important parce qu'il hante l'imaginaire. L'imaginaire de la révolution, c'est un imaginaire finalement très français. Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu là sur les ronds-points, sur certaines avenues, etc. Une envie de révolution, une envie de table rase. Hein, et elle puisait dans notre histoire. Et puis, il y a eu, plus proche de nous, la collaboration. Vichy et la collaboration. Tous les historiens font l'hypothèse que ça a eu quand même un effet. Au fond, il y a plein de familles qui sont divisées par ça, entre résistants et collabos. Ça ne crée pas des relations de confiance optimales. Donc ça joue aussi dans la défiance, dans une partie de la défiance qu'on connaît aujourd'hui. Troisième raison qui explique le climat actuel de défiance dans notre pays, c'est probablement la raison la plus importante, c'est le système éducatif. Si vous avez étudié à l'étranger, si vous avez des enfants qui ont étudié à l'étranger, vous avez simplement eu la curiosité de regarder ce qui se passe à l'étranger, vous vous apercevrez d'une chose, c'est qu'en France, c'est très bizarre, il y a un maître qui entre dans une salle et puis il y a des élèves qui courbent les chines et qui notent pendant toute l'heure de cours. Pour les étrangers, c'est totalement étonnant, parce que dans beaucoup de pays, les pays du Nord, mais pas seulement, le cours est je dirais pas co-créé, mais la participation est encouragée. La participation est le travail de groupe. Notre système éducatif produit plutôt des individualistes. Pourquoi ? Parce que chacun est face à un prof qui incarne l'autorité et simplement se soumet à cette autorité. C'est important parce que ce qui est fascinant pour moi, parce que je donne des cours de temps en temps et je pose la question aux élèves que j'ai en face de moi, ils ont 20 ans, ils ont connu exactement ça. C'est-à-dire ce que moi j'ai connu et ce qu'ont connu les générations précédentes. C'est-à-dire que ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même phénomène où finalement l'élève est peu incité à travailler avec les autres. Donc le travail de groupe, c'est quand même la condition majeure de la confiance. C'est-à-dire que si vous voulez avoir confiance en les autres, il faut leur parler, il faut travailler avec eux, il faut essayer de faire des choses avec. Mais si pendant toute votre scolarité, vous êtes très peu incité à le faire, à la fin, vous arrivez dans les entreprises et évidemment, les entreprises gardent ce fonctionnement-là. Alors évidemment, ça change aujourd'hui, mais ça change jusqu'à quel point, telle est la question. En tout cas, ça favorise un fonctionnement hiérarchique, ça favorise un fonctionnement individualiste et ça favorise la défiance que l'on voit dans la société. Donc vous voyez que c'est pas des petites choses. Alors on va dire, on le sait, mais pourquoi on ne change pas ? Ça, je laisse la question de côté, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais c'est un sujet très important. Quatrième raison, qui explique la défiance dans notre pays, c'est l'État central. Regardez l'Espagne, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie. Partout, c'est décentralisé. Partout, il y a, entre l'État central et puis le bas de la société, toute une série d'échelons intermédiaires. La région, le Land, etc. C'est pas anodin. Dans un État central, surtout quand les corps intermédiaires comme les syndicats sont tellement faibles, eh bien, vous n'avez pas de filet qui permet d'atténuer et de créer de la proximité. Il n'y a pas de proximité, au fond. Et donc, ça crée de la violence, ça crée de la défiance, puisque il y a en haut des gens qui décident, ils sont très loin de vous, et vous, en bas, bah, vous subissez, vous avez le sentiment de subir ces décisions. Donc, comme vous n'avez aucun corps intermédiaire qui peut, comme en Allemagne, par exemple, vous représenter et faire un petit peu le tampon, eh bien, ça devient violent. Ça explique une partie de la spécificité française de la violence. Donc ça aussi, c'est très important. Et ça rend plus difficile, évidemment, les choses. Alors ça rend d'autant plus les choses difficiles, et ça sera mon dernier point, que nos élites sont souvent formées dans le même moule. Regardez ces chiffres, ils sont là aussi très impressionnants. Prenez le top 5% des plus riches dans notre société. Donc, et vous regardez leurs origines en termes d'éducation. Vous apercevez qu'en France, 79%, c'est-à-dire quasiment tous, ont un diplôme du supérieur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas accéder à un moment donné à la réussite matérielle. Prenez deux exemples contraires. L'Allemagne, 1 sur 2. C'est-à-dire que dans les 5% les plus riches, vous avez 1 sur 2 qui n'a pas fait d'études. Hein ? Et il y a beaucoup d'histoires comme ça de constructeurs automobiles dont l'ouvrier qui a commencé à la base est devenu, comme Porsche par exemple, le PDG. Eh bien, ces aventures, qu'est-ce qu'elles ont comme impact ? Idem pour les États-Unis. Vous avez exactement le même chiffre. Donc, vous avez évidemment des diplômés parmi l'élite, c'est normal, il y a des métiers qui exigent cela. Mais vous avez aussi des self-made men, vous avez des gens qui sont faits tout seuls, à la force du poignet. Ça crée quoi quand vous avez une diversité des élites de la confiance ? Parce que vous dites, moi je suis tout en bas, mais j'ai quelqu'un pour me représenter tout en haut. En tout cas, il peut me comprendre. En revanche, quand vous avez des gens qui ont toutes la même formation, et en bas, on a le sentiment que c'est des gens qui ne nous comprendront jamais, qui ne parlent pas la même langue et qui sont loin de nous. D'où la défiance, d'où les gilets jaunes, d'où cette violence qui est particulièrement singulière en France. Elle vient de causes objectives qu'on peut mesurer. Voilà, donc je voulais, pour introduction, rappeler le climat actuel de la France. C'est celui que je viens de décrire. Alors, je vais aller très très vite, je vous l'accorde, sur tout ça. Mais évidemment, ça crée, et pour moi, c'est vraiment la question majeure. C'est la question pour le marketing, c'est la question pour l'économie, c'est la question pour la politique aujourd'hui. Comment on fait pour recréer la confiance? Comment on fait pour que les gens... Mais vous voyez que c'est pas seulement dans l'alimentaire, c'est pas seulement dans la consommation, c'est d'une manière générale quelque chose qu'il faut lever. Et il y a des solutions, mais ça, c'est pas mon rôle d'en parler. Je vais laisser la parole à Kaïti.